Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui dans les Hautes-Voix de la presse, nous recevons Laure Chauvel. Bonjour Laure.
Bonjour.
Donc Laure, toi, tu viens à notre rencontre pour Reporters sans frontières et nous présenter le dernier rapport là, qui a été publié, hein, France, l'information locale en première ligne. Avant de commencer à parler du rapport, est-ce que tu peux rapidement présenter Reporters sans frontières, s'il te plaît?
Alors, Reporters sans frontières, c'est une organisation non gouvernementale internationale dont le siège est basé en France, à Paris, qui a 15 bureaux et sections dans 15 pays du monde et un réseau de 150 correspondants, donc avec une couverture internationale. Et son mandat, il est très clair, c'est la protection et la promotion de la liberté de la presse, la protection des journalistes, mais aussi du droit à l'information des citoyens, des citoyennes, une information pluraliste, indépendante, libre et fiable partout dans le monde.
Donc là, avec ce rapport, hein, France, l'information locale en première ligne, bon, ben, tout est dans le titre. Là, vous vous êtes focalisé sur le territoire national. L'idée, c'était d'avoir une vue un peu d'ensemble de l'état de la presse locale d'information.
Oui, en effet, l'idée, c'était vraiment de pouvoir faire un état des lieux de façon non exhaustive, parce que les médias d'information locale, c'est un paysage très riche, très divers. On a essayé quand même de couvrir, en tout cas, le plus possible de support de ces médias d'information locale et de faire un état des lieux et d'en tirer des constats et ensuite des conséquences. On a publié le rapport quelques jours avant le premier tour des élections municipales pour justement tirer la sonnette d'alarme, alerter sur un modèle de l'info locale qui souffle en France. On n'a pas réellement de désert médiatique, mais en tout cas, on a un maillage territorial de plus en plus lâche au niveau du territoire. Et donc, c'était à la fois de tirer la sonnette d'alarme et de rappeler à quel point l'info locale aujourd'hui, c'est un rempart, vraiment un garde-fou pour nos démocraties. Et qu'aujourd'hui, quand on va toutes et tous se rendre aux urnes et voter, eh ben, il faut y aller en connaissance de cause avec des faits. Et ça, c'est l'info locale qui le permet à l'échelle du territoire.
Dans le rapport, hein, le début du rapport, il est indiqué qu'il y a 15 ans, le maillage de l'information se faisait à 10 km. En France, il est aujourd'hui beaucoup plus lâche. Ça veut dire quand même qu'il y a une moindre couverture médiatique, une moindre présence de journalistes locaux.
Alors, en effet, on a aujourd'hui un maillage de l'info locale plus lâche, plus souple qu'auparavant. Ça s'explique par des pratiques qui sont différentes aussi aujourd'hui, avec même la généralisation du télétravail, du flex-office, de toutes ces choses-là qui font que des agences de presse disparaissent. Des agences de presse de gros titres de presse quotidienne régionale, par exemple, mais avec aussi une baisse des journalistes, notamment titulaires de la carte de presse, même si effectivement il y a des journalistes qui sont journalistes sans carte de presse et qui rentrent tout à fait dans le mandat de l'organisation. Mais en tout cas, c'est un chiffre qui peut montrer qu'il y a un non-renouvellement, en tout cas, d'une génération de journalistes sur ces sujets-là. En revanche, on constate aussi qu'il y a de l'espoir et qu'il y a une nouvelle génération de médias locaux qui viennent prendre la place qu'il y a pour eux, qui sont complémentaires de gros titres de presse quotidienne régionale, par exemple, et qui viennent remailler, en tout cas progressivement, ce territoire-là, en couvrant des communes, des départements, voire des régions, par exemple pour Splend, le média d'investigation en Bretagne, qui couvre la Bretagne à l'échelle régionale, par exemple, jusqu'à des plus petits médias, Lempaillé à Perpignan, par exemple, qui couvrent plutôt des plus petits territoires.
Oui, et c'est des médias justement qui sont un peu en développement en ce moment, même s'ils ont des systèmes économiques qui sont un peu instables. Leur force, c'est justement de revenir, d'être un peu plus présent au niveau local, et avec également, que ce soit également la PQR, la presse quotidienne régionale, même ses grands titres, d'essayer de donner la parole, donner un espace plus important aussi aux citoyens, aux habitants.
La force de l'info locale, c'est vraiment cette proximité-là. C'est ce qui l'expose aussi davantage, et donc c'est vraiment le revers de la médaille. Mais l'info locale, elle a une force particulière dans la représentation de la réalité des Françaises et des Français. Aujourd'hui, l'info locale, les médias d'info locale, c'est les médias dans lesquels les Françaises et les Français ont le plus confiance. 63% d'entre eux leur font confiance, ce qui est un taux, qui est un niveau qui est plus élevé que pour les médias nationaux, par exemple. Et ça s'explique m'implique vraiment parce que, pour reprendre le slogan de Var Matin, l'info locale, c'est le premier réseau social de France. C'est qui vient tisser un lien social entre les gens, qui vient relier à l'échelle d'un territoire les gens entre eux. Ça, c'est ce qu'on perd aussi parfois à l'échelle des médias nationaux, par exemple, où on ressent aussi une perte de confiance, une méfiance, une défiance des citoyens, des citoyennes dans l'information. Et cette confiance-là, elle peut être retrouvée à l'échelle locale, elle peut être retrouvée à l'échelle de l'info locale, de journalistes qui sont sur le terrain, qui sont sur place et qui viennent directement raconter ce qui se passe, ce que veulent que soient représentés les Français et les Françaises de leur réalité quotidienne, quoi.
Il a pas mal de divers médias, entre guillemets, au niveau de cette information locale, cette information régionale de proximité. Vous parlez des radios, vous parlez des petits titres, on a parlé un petit peu de la presse quotidienne régionale. Vous soulevez quand même le problème, hein, qui est assez fort en France, de la concentration des titres aux mains de gros groupes. Hein. Moi, j'habite en Alsace, par exemple. Bon, bah, y a le groupe Ebra qui est majoritaire, qui détient les journaux dans plus de 8 départements là, de l'Est de la France. Et du coup, vous pointez également cette baisse de la pluralité des titres et donc une sorte de monopole de l'information quand même de ces gros médias de la PQR qui sont eux aux mains de grands groupes.
Je ferai une différence quand même entre la concentration des médias à l'échelle nationale et celle à l'échelle locale en France. À l'échelle nationale, on a 9 milliardaires qui détiennent près de 80% des médias. Et qui s'explique notamment, je pense par exemple à Vincent Bolloré, qui est quand même l'un des plus célèbres d'entre eux, qui, de façon assez claire, rachète des médias pour y imposer une idéologie et une politique. À l'échelle locale, en tout cas aujourd'hui, ça se distingue un peu moins. Et cette concentration-là, elle s'explique plutôt par une synergie économique, une synergie éditoriale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 9 groupes détiennent chacun plus d'un quotidien, détenant chacun plus d'un quotidien régional, possèdent 47 des 51 titres de la presse quotidienne régionale. Donc c'est un mouvement vraiment de concentration qui se fait depuis une décennie environ. Et en 10 ans, par exemple, plus de 25 titres ont été rachetés justement par des groupes de presse quotidienne régionale. Et cette concentration-là, en fait, elle a un effet direct sur le pluralisme. Et là-dessus, je vais citer une étude d'un autre média local qui s'appelle Médiacité, qui a fait une étude il y a quelques années pour montrer que le nombre de départements français en état de pluralisme, c'est-à-dire qui bénéficient d'au moins 2 titres de presse détenus par 2 groupes différents, a été divisé par 2 entre 2009 et 2019, passant de 34 à 17 en 10 ans. En fait, cette concentration, elle est problématique quand elle vient porter atteinte à la fois à l'indépendance éditoriale des rédactions et à la fois au pluralisme de l'information. Et là, c'est un mouvement, en tout cas, qui est en cours à l'échelle locale, qui est encore... Il y a des solutions. Il est possible de contrecarrer aussi ce mouvement-là ou en tout cas d'imposer des garde-fous en matière de pluralisme, en matière d'indépendance des rédactions pour contrecarrer ce mouvement, cette dynamique qui est en cours.
Parmi la pluralité, c'est vrai que là, on parle quand même beaucoup des gros médias, de ceux qui sont déjà implantés, mais on voit arriver de nombreux nouveaux acteurs. Là, les acteurs qui sont un peu en difficulté, justement, on va dire, ben, c'est les titres, les gros titres, avec entre autres également la baisse du nombre du point de vente, de la raréfaction des lieux d'accès physique à l'information, donc les kiosques qui disparaissent. Et parmi les nouveaux acteurs, il y a beaucoup de pure players qui s'installent et qui, justement, commencent un peu à prendre leur place au niveau local, les médias de proximité, je pense entre autres à Rue 89, Strasbourg, que vous citez également dans le rapport.
Oui, en effet, il y a une nouvelle génération de médias qui sont spécifiquement en ligne, mais ça c'est à la fois à l'échelle locale et à l'échelle nationale. Je pense par exemple là à l'échelle nationale à Mediapart, qui est un peu la locomotive de tous ces médias-là, qui a lancé vraiment cette nouvelle ère en ligne de l'information, de l'investigation. Et là-dessus, en effet, on a une nouvelle génération qui est de toute façon obligée de prendre reprendre ces nouveaux codes de l'information. Aujourd'hui, s'informer, c'est très, très souvent s'informer en ligne. On a une chute titre de presse écrite en termes de diffusion qui s'explique par de nombreux facteurs, notamment économiques, mais aussi des changements en termes de pratique de l'information, en termes de pratique de comment on s'informe aujourd'hui. Et là-dessus, les médias locaux sont sommés d'innover pour pouvoir justement se faire lire, se faire entendre et que l'information puisse être diffusée la plus largement possible. Donc, on croit encore au papier, vraiment, moi, la première. Mais il faut de toute façon compléter cela par les médias numériques, par des nouvelles façons de s'informer. C'est des codes à apprendre, c'est des formations, c'est comprendre aussi comment évolue aussi aujourd'hui le paysage médiatique. Et c'est surtout se positionner dans un espèce de chaos informationnel que sont aujourd'hui les plateformes numériques, les réseaux sociaux, et essayer maintenant aujourd'hui d'imposer ces pure players au sein d'un écosystème qui, de toute façon, est l'avenir de l'information. Elle est là, il faut faire avec, il faut composer avec, et c'est aujourd'hui comprendre comment on peut distinguer ces médias-là et s'en emparer directement en ligne.
On voit qu'il y a différents modèles, hein, justement, quand on a parlé de l'empaillé. L'empaillé, c'est principalement, c'est un trimestriel, principalement papier, avec très peu d'action sur les réseaux. La topette également, qui elle est un peu plus active et qui a développé également pas mal de points de vente et qui vend énormément quand même d'exemplaires papier. Il y a un exemple dans le rapport que j'ai trouvé très intéressant, c'est le Tahiti Info, donc en Polynésie française. Donc, vous pouvez nous raconter un petit peu, parce que justement, ce qui m'a interpellé, c'est qu'ils partent d'un média pure player, mais au final, ils vont quand même publier, éditer une version papier.
Alors, en effet, il y a une volonté aussi de certains médias de revenir au papier, ou en tout cas de jouer sur les deux tableaux, entre guillemets, enfin, d'avoir un format en ligne, un format papier, pour justement aussi redonner sa place à ce que représente l'information. Aujourd'hui, avoir un journal papier entre les mains, c'est d'abord aller l'acheter, c'est comprendre que l'information, ça a un coût, même si les médias en ligne, on paye aussi un abonnement, mais parfois, on s'en rend un peu moins compte avec des abonnements qui se font tous les mois de façon mensualisée, etc. Là, il y a un coût aussi d'aller chercher son journal et de redonner une place à l'objet même du journal papier. Donc, effectivement, certains médias se redirigent aussi vers le papier. Bon, à voir en effet combien de temps ça va pouvoir, ce modèle pourra perdurer, j'espère longtemps, mais ça a aussi un coût de s'informer sur papier, c'est un coût énergétique, c'est un coût financier assez fort, donc l'avenir nous le dira sur ce sujet, mais effectivement c'est intéressant de comprendre parfois ce virage à l'envers que font aussi certains médias d'info locale.
Et je chante pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui a trouvé un petit chat. Et je chante pour les petits chats pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui voudrais un chien qu'aboie. Et je chante pour les petits chats, les chiens qu'aboie pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui voudrais avoir un rat. Et je chante pour les petits chats, les chiens qu'aboient, les oies pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui veux adopter des oies. Et je chante pour les petits chats, les chiens qu'aboient, les oies, les rats pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui veux t'acheter un panda. Et je chante pour les petits chats, les chiens qu'aboient, les oies, les rats, les pandas. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui va cacher un puma. Et je chante pour les petits chats, les chiens qu'aboient, les oies, les rats, les pandas, les pumas pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui va chercher un lama. Et je chante pour les petits chats, les chiens qu'aboient, les oies, les rats, les pandas, les pumas, les lamas et pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui a marché sur un boa. Et je chante pour les petits chats, les chiens qu'aboient, les oies, les rats, les pandas, les pumas, les lamas, les boas pour moi car ça me fait plaisir. Et je chante aussi pour toi. Je chante aussi pour toi qui t'es fait gronder par papa. Car il a dit qu'il voulait pas ni chat, ni chien qu'aboient, ni oies, ni rats, ni pandas, ni pumas, lamas, boas car il faut les nourrir. Et qui sait qui le fera?
C'est moi, promis papa.
J'ai déjà entendu ça.
Au moins le petit chat.
Bon, d'accord. Mais c'est bien la dernière fois. Merci les enfants.
Parmi les médias d'information locale dont on n'a pas du tout parlé, et ça m'y fait penser parce que je te demande d'abord des questions de coût, c'est les télés locales. Donc là, c'est pareil, il y avait eu une sorte de pluralité qui s'était mise en place de télés indépendantes, de proximité, et on voit que pour eux aussi c'est compliqué en ce moment. Il y en a quelques-unes qui ferment, qui ont des difficultés de fonctionnement, difficultés économiques.
Oui, en effet, à la fois les coupes de subventions publiques, la redirection des annonceurs traditionnels vers les plateformes numériques, tout ça, ça fait mener la vie dure à certains médias. Derniers exemples en date sur le sujet, c'est la fermeture de la chaîne WEO, qui est une chaîne de télévision locale des Hauts-de-France, qui a fermé après 17 années d'existence. Et après la mise en liquidation judiciaire de sa société éditrice, son modèle économique reposait sur un financement mixte entre le public et le privé, donc 50% par le conseil régional, 50% par la publicité, et il s'est effondré à la suite du désengagement notamment de la région et de la chute de ses recettes publicitaires qui sont passées de 1,2 million en 2022 à 535 000 euros en 2025. Donc là, on sent aussi une problématique et des pressions vraiment sur le modèle économique même des médias d'information locale qui doivent aujourd'hui se reconfigurer, rechercher de nouveaux modèles. Et notamment, beaucoup aujourd'hui font le choix de la diversification de leur modèle économique. Donc en passant par plusieurs, je pense à plusieurs titres de PQR qui aujourd'hui ont des festivals à côté, des incubateurs de start-up, qui font qu'aujourd'hui l'information est loin d'être ce qui leur rapporte de l'argent en fait. Et aujourd'hui, il y a ce mouvement en cours justement de diversification, de chercher de l'argent ailleurs, parce que là, on le voit bien avec WEO, mais avec d'autres médias aussi qui ont fermé. L'argent, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, surtout pour l'information. Et l'information, ça a un coût, et c'est un vrai coût qu'il est important de rappeler. C'est pour ça que nous, à RSF, notamment, on demande un engagement fort des pouvoirs publics sur le sujet des médias de proximité.
Incluant donc justement aussi les radios associatives, hein, donc vous citez le nombre de 730 radios associatives, hein, sur l'ensemble du territoire avec l'outre-mer également, et un chiffre comme quoi une quinzaine de radios se seraient déjà éteintes là en 2 ans, entre 2023 et 2025, donc ça participe également à cette raréfaction des médias de proximité, la radio associative locale étant un média assez fortement implanté.
Oui, complètement. Et la radio, c'est un support d'information qui est absolument nécessaire. Enfin, là, je prends un exemple européen, mais par exemple, en Espagne, quand il y a eu des grandes coupures d'électricité, la radio est restée le média qui était là, qui restait là, et qui permettait d'informer tous les citoyens et tous les citoyennes sur la situation en cours. Aujourd'hui, les nombreuses radios associatives, les radios publiques du réseau ICI, tout ce maillage-là et cette densité qui reste de l'information locale, elle est permise grâce aux radios qui permettent vraiment d'émettre sur tout un territoire et qui s'attachent vraiment à la réalité de ce qui se passe dans la vie des Françaises et des Français dans chaque territoire. Et dans la multiplicité des radios associatives avec lesquelles j'ai énormément échangé sur ce sujet, c'est la richesse aujourd'hui de l'info locale. Elle permet vraiment de c'est peut-être le média qui maille le plus aujourd'hui l'info locale. C'est pour ça que les dernières dynamiques en cours en termes de budgétisation, notamment des fonds qui sont alloués aux radios, sont très problématiques. Et les coupes envisagées, enfin qui ont été envisagées, finalement non, mais peut-être l'année prochaine et on verra, etc. Ben, en fait, c'est très problématique pour des radios qui sont déjà pour la plupart à bout de souffle et qui doivent aujourd'hui se réinventer avec cette épée de Damoclès de toujours avoir ces coupes de subventions publiques qui arrivent à grands pas, malheureusement.
Sachant que voilà, pour les radios, la concurrence est rude, les nouvelles technologies également, parce que le passage au DAB+ n'est pas une garantie que les auditeurs et auditrices suivent les radios. Donc il y a énormément de concurrence, et en même temps, il y a également ce dont vous parlez, entre guillemets, j'allais dire cette fausse concurrence, c'est-à-dire la multiplication des faux sites. Là, vous citiez que donc, ben justement, un reporter sans frontières, vous avez recensé 85 sites actifs là en novembre 2025. Depuis, ils se sont mis à l'arrêt apparemment tous d'un coup. Ces sites, ils sont générés comment, par qui? Là, on est vraiment sur de la fake news.
Oui, alors il y a une multiplication, et là on l'a vu notamment durant les périodes d'élections, qui sont vraiment les élections mettent le journalisme à l'épreuve. Et là on a vu en effet plusieurs sites d'information, 85 sites qu'on a recensés, mais on pense qu'il y en avait même davantage, qui totalisaient plus de 13 000 articles. C'est des sites qui prennent tous les contours de sites d'information locale qu'on connaît et qu'on consulte quotidiennement, mais en fait qui reprennent ces contours, mais qui reprennent sans finesse les narratifs du Kremlin notamment, en les intégrant dans d'authentiques informations tirées de la presse régionale. Donc on peut vraiment s'y méprendre, et c'est des sites qui sont là vraiment pour déstabiliser en période électorale. Et la presse locale, vraiment, on l'a remarqué depuis novembre jusqu'en mars, c'est sans aucun doute devenu une cible de choix à déstabiliser. Donc à la fois du côté ingérence étrangère, propagande, c'est-à-dire que on a très vite compris que les acteurs étaient des acteurs étrangers, des acteurs russes qui étaient là pour venir déstabiliser l'opinion publique en période charnière dans une démocratie. Mais on a également une autre pratique qui se multiplie et qui s'accroît sur ce sujet. C'est une désinformation qui est purement lucrative, qui est moins idéologique ou politique, et qui est portée par des professionnels de l'intelligence artificielle qui saturent l'espace numérique. Et en fait, qui produisent quotidiennement des articles générés par intelligence artificielle sur des faux sites d'information, et qui, ça leur permet, en générant beaucoup d'articles, de remonter dans Google Discover, qui est la fonctionnalité de recommandation de contenu de Google, et qui permet donc de générer un trafic conséquent qui leur permet de tirer des revenus de la publicité directement en générant des faux articles. Donc on a plusieurs techniques de désinformation avec des objectifs chacun différents, mais qui viennent en effet écraser l'information locale et qui viennent surtout chercher les revenus qui sont initialement préposés pour être dirigés vers l'info locale.
C'est assez impressionnant les chiffres, hein, justement quand vous parlez de ces médias qui sont générés par l'intelligence artificielle et donc qui saturent l'espace numérique. Vous dites que c'est jusqu'à 20% du trafic qui est mis en avance, enfin ces sites d'information quoi, par Google Discover, 20% donc des liens sont vers des sites d'information qui sont générés par l'IA générative. Vous avez recensé 251 faux sites en langue française, c'est-à-dire pas uniquement sur la France, pour tous les territoires qui parlent français.
Oui, exactement. Vous avez tout dit, en effet, et ça montre vraiment l'ampleur de ces techniques-là qui viennent vraiment qui ont deux objectifs, soit lucratifs, donc se faire de l'argent, soit déstabiliser en période électorale. Et là, on l'a vu, c'était très peu subtil. Pour des professionnels, entre guillemets, comme nous, qui travaillons sur cette information-là, et en même temps, moi, j'ai essayé de me prendre au jeu et au jeu, c'est pas vraiment un jeu très drôle, mais d'aller sur ces sites de désinformation. Et en fait, on se rend assez compte qu'on peut être vite pris au piège et que c'est assez facile d'y croire, en fait, parce que pour des informations d'actualité chaude, où c'est pas une investigation, où c'est pas un très long article, etc., en fait, on peut prendre l'information et puis en faire ce qu'on veut ensuite. Donc, oui, c'est d'une ampleur sans précédent, en tout cas sur le territoire français. Et ce qui est important de prendre en compte là aujourd'hui, c'est que les élections municipales 2026, c'était aussi une grande répétition générale pour les élections présidentielles de 2027. Donc aujourd'hui, on a repéré ces quelques centaines de sites de désinformation. Il faut aussi s'attendre en période de présidentielle, donc à l'échelle plutôt nationale, à une vague aussi de ces sites à la fois d'information locale, mais aussi d'information plutôt nationale, et à ce déferlement de fausses informations.
Là, on arrive à la fin du rapport. Donc, Reporters sans frontières qui impose quelques recommandations. Parmi les recommandations, enfin, disons, on va dire parmi les exemples, il y a celui du Danemark, où ils ont créé un fonds dédié au journalisme d'investigation locale. Donc, il y a quand même plusieurs recommandations, il y a plusieurs pistes à suivre pour essayer justement de défendre l'information et le pluralisme de l'information locale de proximité.
Des bonnes pratiques existent en Europe et l'idée, c'est aujourd'hui que la France vraiment s'empare de ces modèles-là, de politiques ambitieuses en la matière pour déjà redorer le blason de l'info locale auprès des citoyens, auprès des citoyennes, redire à quel point, et c'est aussi ce que souhaitait faire ce rapport, à quel point l'info locale, c'est d'une importance majeure à la fois pour les faits, pour la vérité, mais aussi pour nos démocraties. Et du coup, en parallèle de cette visibilisation-là de l'info locale, c'est aussi concrètement prévoir des politiques publiques claires et solides sur ces sujets et sur trois axes différents. À la fois un soutien du pluralisme et une préservation de l'écosystème de l'info locale, notamment en proposant une refonte du système des aides à la presse pour mieux cibler les médias de proximité les plus fragiles. Un deuxième axe pour renforcer la confiance du public dans l'info locale. Et un troisième axe, et non des moindres, qui est la protection des journalistes locaux et la prévention des pressions sur l'indépendance éditoriale, notamment, et ce que vient de faire d'ailleurs le nouveau maire de Paris, en nommant dans les municipalités qu'ils peuvent un adjoint au maire en charge des médias et du journalisme local, pour ensuite aussi faire remonter auprès des préfectures ou des sous-préfectures les problématiques qu'il y a à l'échelle d'une commune, d'une ville sur ces sujets.
On n'a pas abordé une des thématiques que vous développez dans le rapport, hein, c'est celle concernant les agressions, les pressions, les menaces sur les journalistes, les lanceurs d'alerte. On a rencontré pas mal de gens ces dernières semaines avec les autres voix de la presse, dont Sophie Lemaitre qui est venue nous parler justement aussi de son livre « Réduire au silence », Cartooning for Peace aussi qui a sorti son rapport sous pression, donc qui concerne plus les menaces envers les illustrateurs, illustratrices, également l'Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse. Là, vu qu'on arrive à la fin de l'émission, il y a une actualité justement, c'est la transcription dans le droit français de la directive européenne anti-slap avec une tribune qui vient d'être publiée dans le journal Le Monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe et quelle est cette urgence avec la transcription de cette directive ?
Alors aujourd'hui, on a un accroissement de procédures judiciaires qu'on nomme plus communément les procédures Bayon. Tout est dit dans leur nom, c'est des procédures qui visent à faire taire les journalistes, mais également, enfin, moi je vais rester sur le mandat de RSF, donc les journalistes, mais ça ne concerne pas que les journalistes, ça concerne les chercheurs, les lanceurs d'alerte, les scientifiques, etc., qui en tout cas mettent dans le débat public des informations d'intérêt général. C'est des procédures qui sont en plein accroissement, qui sont utilisés par des acteurs qui ont beaucoup d'argent en général. C'est les gros qui attaquent les petits, très souvent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en parle aussi dans le rapport de RSF. C'est l'info locale, les médias d'info locale qui sont souvent un peu plus vulnérables, un peu plus fragiles, qui ont moins de soutien financier, de soutien juridique que certains gros médias nationaux, qui sont directement touchés par ces procédures Bayon. Et aujourd'hui, donc on a monté une coalition avec 10 organisations à l'initiative de cette tribune, donc dont RSF avec Sherpa, le Fonds pour une presse libre, Greenpeace, Transparency International notamment, des syndicats de journalistes. Et on a publié en effet cette tribune avec plus de 150 signataires pour demander à la France de transposer de façon ambitieuse une directive européenne qui entrera en application en mai prochain et qui vise à encadrer, à protéger ces procédures judiciaires abusives, en tout cas à lutter contre. Sauf que cette directive, on ne la trouve pas assez ambitieuse. Aujourd'hui, elle vient lutter contre les procédures Bayon entre deux territoires de façon transfrontalière. Sauf qu'aujourd'hui, en France, on voit aujourd'hui que, en général, les procédures Bayon sont intentées par des personnes qui sont sur le territoire français, sur des journalistes et des médias qui sont sur le territoire français. Donc on demande à la fois l'application de cette directive, mais à la fois de la rendre plus ambitieuse dans son application dans le droit national, notamment en reconnaissant que les procédures Bayon se font au sein d'un même territoire, par exemple.
Tu as parlé du fonds pour la presse libre, je tiens à les saluer également. Et puis ils ont lancé justement le fonds Riposte qui est là pour venir en aide aux médias qui sont menacés par des procédures Bayon. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que c'était un peu le pot de fer contre le pot de terre quand ils se retrouvaient, ces médias, face à des personnalités politiques, voire à des milliardaires. Donc le fonds Riposte du fonds pour la presse libre. On arrive au terme de l'émission. Donc pour les personnes qui voudraient retrouver le rapport France, l'information locale en première ligne, donc publié là par Reporters sans frontières, via le site internet, il est téléchargeable ?
Oui, complètement. Il est disponible en ligne sur le site de RSF, gratuit, accessible à toutes et tous.
Eh ben, merci beaucoup Laure et bonne continuation avec Reporters sans frontières. Et voilà, on va essayer de faire tout notre possible pour défendre la presse de proximité.
Merci beaucoup à vous et bon courage pour la suite.
C'était les autres voix de la presse avec Laure Chomel pour Reporters sans frontières. À la semaine prochaine, d'ici là.
On va se diriger ton stylo.